Bonjour à tous, bonsoir et bienvenue pour l'épisode 6 de cette cinquième saison d'Autour du Feu. Et bon, normalement je suis animateur, l'animateur est censé avoir une espèce de neutralité comme ça, ce qui n'est... Bon, si vous écoutez, vous savez que c'est pas du tout mon cas. Mais là j'ai envie de m'effacer un petit peu, je pense que je vais beaucoup laisser parler mes intervenants ce soir parce qu'on en a des choses à dire. Bah du coup on va commencer par mon complice, je l'appelle tout le temps le truculent, il va falloir que je trouve un peu d'autres adjectifs, c'est SLZ. Salut Arnaud.
Salut mon ami nous. Oh le truculent, oui. Tu peux nous dire, tu peux m'appeler aussi l'enculé, comme tu. Enfin, c'est comme tu veux.
Non. Écoute, on a un podcast tout public, enfin normalement. Et du coup, non, ce genre d'insulte, non. Puis bon, voilà.
Ah, bon,
ça,
voilà okay.
On est une bande à l'esprit joyeux quand même.
Bon, on est une bande organisée.
Voilà. Et personne ne peut rivaliser.
Ça part fort. Hein.
Bah, du coup, avec nous aussi, lui, pareil, je pense que le sel va être présent ce soir de son côté et je pense qu'il aura aussi beaucoup de choses à dire. C'est l'ami Jade. Salut, Jade.
Je vote avec Claude. Bon, écoutez. Écoute, Damien, salut. Content de faire le podcast, moins content de l'épisode, mais voilà, ça va quand même être très, très intéressant d'analyser l'épisode, si on peut parler d'analyse. Mais voilà, on verra bien ce que ça va donner.
Et dans analyse, il y a Lise.
Eh oui.
C'est tout.
Voilà.
Vas-y, enchaîne.
On va enchaîner. Bah, avec aussi donc, la nouvelle administratrice ADF, comme nous, c'est celle qui gère un petit peu le podcast avec nous, maintenant. Bah, c'est Emma. Salut, Emma.
Salut à tous. Ce soir, aussi salé que la morue de mon pays d'origine. Donc, ça va balancer.
Oh putain, alors là, j'apprends une chose, là.
Ouais, t'as vu ?
Ah ouais, putain, t'es grec.
Les infos comme ça. Mais non, pas grec.
J'aurais juré que t'étais italienne, moi, tu vois.
Ah ouais. Ouais. Eh bah, comme quoi, on en apprend tous les jours.
Eh bah, tu vois.
Ça, ce soir, c'est un podcast international. Le Liban, le Portugal.
La Nièvre.
Et la Nièvre. La Nièvre et la Sarthe.
Voilà. Ben, écoutez, je vous propose qu'on commence tout de suite parce que, de toute manière, l'épisode, c'est juste quoi. C'est le pré-game, une élimination ô combien imprévisible. Donc, du coup, commence. Alors, épreuve de confort avec le gros poisson à gagner. Et avant, pareil, est-ce qu'il y a des choses comme ça qui vous ont intéressé, parce que je dirais que les trois quarts de l'épisode étaient surtout sur la fin, en fait, sur la fin chez les rouges et puis les jaunes qui mangent un peu comme des cochons. Donc, je vous laisse la parole, organisez-vous, voilà. Je vous laisse. Je vous laisse les clés.
Je vous laisse et je me barre.
Damien, elle a abandonné, quoi. Non, bah, moi, j'avais noté, même quand c'est Candice qui sort, c'est pas elle qu'on voit. On a vu beaucoup Clémentine, on a vu beaucoup Hugo, mais on n'a même pas vu Candice sur l'île des Bannis. Donc voilà, définitivement un fantôme de cette saison, cette petite Candice.
C'est vrai que Candice, du coup, c'est vrai qu'on peut en attendre. C'est limite un peu. Enfin, voilà, bon, je sais, c'est pas une candidate que j'apprécie beaucoup, mais je me dis que c'est limite un peu décevant. Elle aurait pu peut-être aller un peu plus loin si elle avait été dans les. Ou dans les bonnes alliances, ou si ils avaient eu un petit peu l'état d'esprit de renverser l'ordre établi. Donc, ouais, non, c'est un peu dommage pour elle, quoi.
Non, bah, on avait un tout petit peu l'arrivée de Candice, ce qui a confirmé une chose, c'est que Clémentine, Clem la rage, a encore deux fois plus de rage et a envie de revenir dans l'aventure pour tout dégommer. Après, ouais, non, il n'y a pas eu grand-chose avant l'épreuve de confort. Aussi, la construction du radeau, avec Claude qui prend un leadership. Alors, on a eu un peu peur qu'il retombe dans ses travers de mec qui dirige tout et qui n'est pas forcément, qui prend pas forcément de pincettes. Après, ça reste Claude. On le dit assez régulièrement, c'est les aventures de Claude et ses amis en colonie de vacances. Donc, bon, je pense que Claude, il peut insulter tous les ancêtres de tous les candidats que les candidats lui diront quand même amen. Donc voilà, on l'a vu un petit peu patriarche avec Sam, limite à lui mettre des taquets derrière l'oreille en lui disant bah vas-y, prends des décisions un petit peu, n'ayez pas peur de l'échec. Et je pense qu'avec Sam, on y reviendra plus tard aussi là-dessus. Mais voilà, non, rien de transcendant sur ce pré-épreuve.
On a peut-être vu un peu d'édits négatifs de Claude, mais vas-y, Jade.
Bah, du coup, moi, je voulais dire que avant le confort, c'est du vide. C'est-à-dire que même les scènes de tension qu'on nous montre, c'est pas des scènes de tension, parce que c'est Sam qui suit Claude, mais Claude, il s'en fiche parce que Claude, il va quand même sauver Sam. C'est Kumba qui reproche à Sam de pas prendre du leadership, mais Kumba, elle s'en fiche parce qu'elle est avec Claude, donc elle va sauver Sam. Donc au final, tout ce qu'on nous montre, c'est du vide, ça ne sert à rien, on n'apprend rien. On est juste posé devant notre télé, on est censé voir deux équipes qui font des radeaux. Ça prend 30 minutes, et en plus, du côté jaune, on a ces fausses tensions qui ne servent absolument à rien, mais du côté rouge, on a quoi? On a, ah oui, franchement, la construction du radeau, ça se passe très bien, oh là là, on est censé croire que c'est les rouges qui vont gagner le confort, alors que franchement, mais c'est du vu et du revu depuis 20 000 années, on sait très bien que c'est l'équipe qui galère le plus à faire son radeau qui va gagner au final, parce que waouh, franchement, on n'a pas vu ça venir, oh là là, waouh. Donc clairement, à partir de ce moment-là, on voit que tout va bien côté rouge, alors que tout va mal côté jaune, on peut déjà savoir qui va manger le poisson.
Et pour compléter tes propos, Jade, quand tu dis qu'avant cette épreuve de confort, c'est du vide, j'élargirai un petit peu. Entre le générique de début et le générique de fin, c'est du vide.
Il y a eu quelques scènes intéressantes. Je pense notamment aux trois pubs, mais à part ça, c'est un peu compliqué.
Mais oui, c'est sûr qu'on essaie de créer des... On essaie de créer des faux conflits. Et moi, ce qui m'a vachement choqué sur cet épisode aussi, c'est le remplissage bouffe et le remplissage survie. Alors que normalement, on est dans un All-Star, on est censé savoir qu'ils ont déjà tous fait au moins une émission. On n'a pas besoin de les voir pêcher, de les voir construire un radeau pendant 1000 ans. Icaro dit dans le chat aussi le remplissage flashback. Enfin, c'est un épisode où on a 80% de remplissage sur des trucs où c'est bon, on a vu et revu. Et... Ils n'ont pas eu assez de matière pour faire 2 heures d'épisode sans remplir à balle le truc. Et c'était vraiment... c'était trop long, quoi. C'était trop long. Trop chiant, trop long.
C'est, alors, je ne sais plus qui. Il me semble... je ne voudrais pas dire de bêtises. Il me semble que c'est NZ qui s'amusait à chronométrer l'épisode dans notre communauté.
Oui, c'est lui.
Oui, c'est ça. Et il s'amuse à chronométrer l'épisode si tu enlèves le générique, les résumés, les plans paysages, les flashbacks et les pubs, t'as 1h31 d'épisode, alors que techniquement, ça a duré de 2h30. Donc, c'est, voilà, c'est, on rame quand même à trouver de l'image.
Hein. Bah, j'ai eu la même impression aussi, c'est que vraiment, comme l'élimination était un peu cousue de fil blanc, quand on a vu que c'était les jaunes qui retournaient au conseil encore une fois, je pense qu'ils ont vraiment ramé à essayer de trouver ne serait-ce qu'un petit peu de dramaturgie, donc c'est pour ça qu'ils en ont fait aussi beaucoup sur la nourriture. Voilà, c'est que la première épreuve, celle de confort avec les radeaux, bon, c'était voilà, ils ont construit le radeau, c'est bien, puis après le truc de faire des allers-retours pour aller taper une cible, ouais, j'étais pas convaincu. Et pour passer ensuite à l'immunité, l'immunité était sympa quand même.
L'immunité était sympa. Pour revenir 30 secondes sur l'épreuve des radeaux, j'ai pas compris la technique des rouges et leurs radeaux, sachant qu'ils ont Théoura, alors que le mec, il avait juste à traverser l'île pour aller chercher une pirogue. Hein. faudra m'expliquer un moment pourquoi il n'y a pas pensé, plutôt que s'emmerder à construire un radeau, il y a ses parents qui habitent à 5 minutes.
Et puis surtout, on a eu 10 minutes sur « Oh là là, Théoura, c'est un héros, Théoura, il est trop fort, il construit un radeau, machin, pour qu'ensuite il coule le cul dans l'eau.
» Pour moi, l'épreuve de confort, elle était franchement pas folle à suivre. C'est-à-dire que dès le début, on voit très bien qu'il creusait l'écart, et à partir de ce moment-là, il y a zéro suspense. Même si Denis Brognard veut nous faire croire avec sa voix off que « Waouh, c'est serré !» Désolé Denis, on a deux yeux, on sait très bien que les jaunes sont en avance, on le voit très bien, tu n'es pas obligé de nous faire croire qu'il y a un suspense. Il n'y en a pas. Et de deux, pour moi, tous les côtés flashback, remplissage, survie, etc., c'est une conséquence logique de la direction qu'a pris la saison dans toutes ses décisions. C'est-à-dire qu'à partir du moment où, dans les deux équipes, tu as une alliance d'hommes pré-game qui domine, niveau stratégique, tu ne peux rien montrer. C'est-à-dire que du côté rouge, pour commencer, parce qu'ils ne sont pas allés au conseil, on sait très bien que les hommes, ils sont en majorité. On sait très bien que les hommes vont dominer le conseil. Et on a eu les dynamiques lors du dernier épisode avec Jade, Alix, Alexandra. On sait très bien où les choses en sont. Et je pense que, en dehors du conseil, ça discute pas. Donc, rien d'intéressant à part les quelques scènes comiques de Namadia et Laurent. Encore heureux, ils sont là, même si parfois ça peut être forcé côté Laurent. Et ensuite, côté jaune, mais c'est la catastrophe. C'est-à-dire qu'on a Claude, on a deux zombies, Phil et Sam, qui suivent Claude dans toutes ses décisions. Zéro personnalité qui sont montrées par ces deux candidats-là. Et derrière, t'as Kumba et Christelle qui viennent s'ajouter à ça. Et du coup, bah, on sait très bien que Clémence, elle est foutue. Et à partir de ça, il y a zéro personnalité, zéro jeu qui est montré dans l'épisode, et je trouve ça désolant parce qu'il y avait tellement mieux à faire, et j'ai l'impression qu'on est ingrat parce qu'on ose demander mieux, alors que bon, j'ai l'impression que les gens aiment bien la merde qui est proposée, donc voilà.
Alors, du coup, moi je voulais passer faire un tour sur l'île des bannis, où on a vu l'épreuve. Est-ce que, enfin, donc on a parlé de Candice, mais est-ce que vous êtes content aussi que Clémentine et Hugo continuent ?
Ah ben, ouais, personnellement, oui. Je suis hyper contente que ce soit les deux qui continuent, enfin surtout Clémentine. Moi perso, c'est une de mes favorites de cette saison. Je la connaissais pas avant, j'avais pas vu sa saison d'avant, et je suis hyper contente de l'avoir découverte dans la légende. Et puis c'était aussi surtout le seul moment de un tout petit peu suspense et d'enjeu qu'on a eu dans l'épisode, et honnêtement je pense qu'au niveau du montage c'est pour ça aussi qu'ils l'ont mis au milieu de l'épisode et pas au tout début comme les autres fois, c'est que cette épreuve là et ce moment sur l'île des bannis, déjà c'est le seul moment divertissant parce que Hugo dans sa personnalité et puis le fait qu'il soit là depuis le début, ben, c'est intéressant à voir. Clémentine elle est super divertissante et elle nous fait rire, donc c'est vraiment un moment de soulagement qu'on a eu un peu une respiration au milieu de cet épisode, et je pense que vraiment c'est une des raisons pour lesquelles ils l'ont mise au milieu, parce que on avait aussi un peu de suspense, ils en ont profité pour mettre la pub, enfin vraiment ils ont eu ces 10 minutes là et ça a un peu tenu l'épisode quoi, j'ai trouvé. Et ouais, hyper contente que Clémentine se soit sauvée. Je pense que Hugo il se construit petit à petit, bah voilà, même Denis l'a dit dans la voix off, je sais plus ce qu'il a dit, c'est plus un fauconnier, c'est le phénix, je sais pas quoi. Donc il commence à avoir un bon montage de quelqu'un qui se sauve et qui revient à la Réunif. Et voilà, donc hyper, hyper contente de ce passage-là, qui a été le seul passage intéressant de ces deux heures qu'on vient de perdre.
Hugo, c'est clairement le chemin du roi. On l'a dit, on le répète, il nous impressionne chaque semaine. Le mec, il est en autosuffisance alimentaire et il claque masterclass sur masterclass. Donc, je suis vraiment heureux pour lui. Ça donne beaucoup d'épaisseur au personnage. Et on le voit, voilà, on le voit. Pour moi, c'est Jacob dans Lost, pour ceux qui ont la référence. c'est le patron de l'île, clairement. Et Clémentine, voilà, je suis vraiment content également pour Clémentine, comme l'a dit Emma. C'est un personnage. D'ailleurs, Emma, je te fais une petite parenthèse. Je te conseille vraiment la première édition de Clémentine pour voir l'étendue du personnage, car dans sa première saison, elle était vraiment exceptionnelle.
Ouais, c'est sur ma liste.
Ouais, même si ça fait couler beaucoup d'encre, voilà, c'est comme ça qu'on aime Clémentine. Mais voilà, c'est cette détermination qui la guide, cette flamme dans les yeux, j'espère. Alors malheureusement, la semaine prochaine, quoi qu'il arrive, il y a un de mes trois persos préférés qui va partir, parce qu'il y a Clémence qui va les rejoindre. Donc voilà, c'est dommage. J'ai un peu peur que Clémentine ou Hugo partent. De toute façon, voilà, ils n'ont pas Hugo Pratt. Voilà. Je sais pas quoi dire. parce que Clémentine, voilà, c'est vraiment la reine.
Alors moi, je suis totalement d'accord avec Emma et CLZ pour le coup. Les deux candidats les plus intéressants de l'épisode, pour moi, ce sont les deux candidats qui survivent justement à cette arène. Donc Hugo, je trouve sa storyline absolument géniale, c'est-à-dire qu'on a le mec qui est totalement exclu du pré-game de l'alliance masculine au début, qui sort en premier assez logiquement par rapport aux dynamiques en place, et ensuite qui justement arrive à se débrouiller pour survivre dans des conditions vraiment nazes. Et on a aussi Clémentine qui que je trouve très intéressante depuis son arrivée à l'exil aussi. On retrouve un peu ce côté rage qui nous avait marqué. Donc c'est toujours plaisant, même si voilà, pour son jeu, je pense que elle faisait bien de se canaliser. Mais là, du coup, c'est très intéressant à revoir. Et pour le coup, entre les trois, je suis très content que ce soit Candice qui sort. Même si je n'ai rien de spécial contre Candice, je pense qu'on avait vraiment beaucoup plus à gagner en gardant Hugo et Clémentine.
Ouais, et pour rebondir, Jade, ce que tu disais sur Hugo, il y a un gros narratif qui est en train de se construire autour de lui, et je pense que c'est quelqu'un, enfin, c'est facile en fait de bien présenter Hugo, c'est quelqu'un qui n'est pas clivant à partir du moment où, depuis le début, il est tout seul et il joue son jeu en individuel et il fait que des épreuves de la survie, des épreuves de la survie. Comme il n'y a pas cette dimension ni sociale ni strat, et qu'a priori il n'est pas dans une alliance pré-game, en fait, il peut hyper facilement faire l'unanimité et se construire autour de lui une base de soutien solide, en tout cas parmi les gens qui regardent Koh-Lanta. Et c'est un peu le personnage qui peut mettre tout le monde d'accord, parce qu'il ne va pas être clivant sur la strat, sur le social ou pas. Donc je pense qu'il a des beaux jours devant lui, en tout cas s'il passe cette dernière épreuve de la semaine prochaine. À mon avis, là, il arrive de manière assez solide, surtout pour sa propre image, en fait.
Alors, ensuite, on peut passer directement à l'épreuve d'immunité. Cette épreuve, c'était une épreuve donc avec des, fallait chercher des projectiles qu'il fallait lancer dans des filets qui étaient retenus par des aventuriers. Donc Sam a été le premier chez les jaunes à lâcher, et du coup, c'est Alexandra qui fait gagner son équipe en restant face à Christelle. Je crois que c'était 57 kilos ou un truc comme ça. Donc, une belle performance d'Alexandra. Sur du statique, encore. Et du coup, donc les jaunes vont au conseil. Et alors, sur cette épreuve, moi, je voulais surtout parler de... que ça fasse un peu une ouverture sur Sam. Et alors, Sam, voilà, c'est-à-dire que déjà... On n'en pensait pas du bien lors de l'île des héros, qui était notre deuxième saison. Là, voilà, c'est frauduleux, je regrette. C'est-à-dire que l'image qu'on en a donnée, parce que c'était l'ami de Claude et de Théoura et de Moussa et compagnie, là, on se rend compte que il n'a pas de caractère. Il n'a pas de caractère, Sam. Il ne sait pas parler aux gens. Et il veut juste suivre Claude, suivre Théoura. Il veut être eux. Enfin, personnellement, je suis content qu'on voit un petit peu que la hype qu'il pouvait avoir auprès d'autres personnes s'est complètement dissipée, parce que voilà, on rappelle que sans les abandons déguisés de Valérie et de Benoît, Sam partait le premier chez les jaunes dans l'île des héros. Donc ouais, je vais vous laisser parler à ce sujet, savoir ce que vous pensez, vous, de Sam, est-ce que je suis trop dur avec lui ou pas du tout. Donc allez-y.
Oh non, quand il cherchait le collier, enfin quand Claude lui cherchait le collier, j'avais l'impression qu'il cherchait un collier anti-puce, tellement c'est son clébard. Donc non, mais voilà, c'est il est là uniquement, il tient sa présence uniquement que grâce à Claude, parce que Claude sait que ça pourra être un bouclier au moment venu. Donc voilà, la preuve. Kumba, quand elle a fait la connerie d'aller dire à Claude qu'elle songeait voter Sam, elle s'est vite refait monter les bretelles. Donc, ouais, il n'y a aucun social, il s'intéresse à rien, à aucun de ses coéquipiers. Voilà, alors, il est là que pour son côté survie, son côté Théoura Boy et rien de plus. Donc, il apporte pas grand chose. Et en plus de ça, il se trouve de plus en plus sur les épreuves. Voilà, c'est la déception. C'est la grosse, grosse, grosse déception, mais ça confirme ce qu'on pensait déjà de lui il y a 2 ans.
Ouais, Sam, personnellement, je l'ai détesté jour 1 de l'île des héros. Mais au moins, à l'île des héros, il y avait quelque chose à détester, en fait. Enfin, il y avait des interventions, il y avait des trucs. Enfin, on voyait Sam. Disons que c'était un personnage de l'histoire, et là, Sam, c'est une coquille vide, enfin, il n'y a rien. On a l'impression que c'est un robot qu'on construit en techno en quatrième pour afficher un message « Je veux être Théoura », et c'est tout, quoi. Genre, c'est tout, c'est que ça, Sam. Et c'est d'un ennui pas possible. Et enfin, autant j'avais beaucoup de mal à comprendre la hype autour de lui, autant là je comprends très bien que tout le monde s'en détache parce que y a rien derrière quoi, et puis c'est hyper fatigant de le voir tout le temps à la botte de Claude, à la botte de Théé, et d'être prêt à ne pas jouer un collier si jamais il en trouve un parce qu'il s'auto-flagelle comme quoi il n'a pas été un assez bon soldat, oh là là, pardonne-moi mon général, enfin vraiment toute cette rhétorique un peu autour de bah ouais du sport et même vachement militaire quoi autour de Sam avec une admiration aussi forte pour ses héros, enfin c'est chiant quoi, voilà.
Alors moi je suis totalement d'accord avec vous sur Sam, sur le fait qu'il est inintéressant, et surtout lorsqu'il est avec des héros type Claude, Théoura et j'en passe. Mais c'est là où justement je vais pas seulement attaquer Sam, mais je vais attaquer ALP. Parce que pour moi, ils ont loupé le coche avec Sam. C'est-à-dire qu'au lieu justement de pousser une storyline autour de Sam, ok, il a vécu sa saison en tant qu'apprenti avec ses héros, pourquoi est-ce que tu le fais revenir Sam dans les mêmes conditions ? Où est l'évolution ? Il n'y a aucune chance d'avoir une évolution de Sam dans une saison comme ça. Et justement, tu le ramènes pour être un soldat de candidat. Tu, justement, réduis les chances d'autres candidats. Tu sabotes ton propre jeu. Là, je parle d'ALP. Quel intérêt ? Surtout que Sam, il n'apporte rien à l'écran. Alors que tu ramènes Sam dans une saison où il est égal à égal avec d'autres candidats, ça aurait peut-être été différent, même si je pense que Sam, au final, c'est quelqu'un qui n'est pas fait pour Koh-Lanta. Tout simplement parce que l'aspect social, l'aspect stratégique, c'est quelque chose qu'il ne maîtrise pas. Et au-delà de la maîtrise, c'est quelque chose qu'il ne reconnaît pas. Et moi, c'est quelque chose que je n'accepte pas, en fait. Franchement, c'est très très dommage, mais c'était prévisible. Donc à partir de là, qu'il perd une fanbase ou pas, on s'en fiche. Voilà quoi.
Après, ALP le ramène dans la légende parce que ALP fait du fanservice et que les gens l'avaient adoré dans l'île des héros et avaient adoré. Il y a la photo là de Théoura, Sam et Claude torse nu en mode les trois goats de la saison, et ALP a cherché à reproduire ça, quoi, à reproduire cet effet île des héros qui avait bien marché. C'est tout. Et sauf que ça marche pas, et ben tant pis pour eux, et tant mieux pour nous.
Bah pour moi, ce que fait ALP, je vais faire une comparaison football, mais ce que fait ALP, pour moi, c'est la même stratégie qu'une équipe qui accumulerait les superstars sans aucune tactique, sans aucun plan, et créer une équipe qui justement n'a aucune cohésion.
Comme le PSG cette année.
C'est exactement pareil, parce que les noms qui ont été mis dans la saison, c'est des noms qui ne peuvent pas donner ensemble, pour moi, une saison intéressante. C'est-à-dire que les retournements de situation avec ces noms-là, c'est une mort, parce que tout est déjà écrit. On sait très bien que quelqu'un va dominer le jeu avec son alliance pré-game, on le sait. Et on est obligé de regarder ça épisode après épisode. Et on sait très bien que les candidats en minorité ne peuvent rien faire si ce n'est trouver un collier pour changer le jeu. Il y a zéro vision. Et moi, je ne comprends pas comment des professionnels comme ALP ont pu justement se dire que c'était une bonne idée. Parce que je sais qu'il y a des fans dans la communauté qui, au moment où le casting est révélé, se plaignaient déjà du manque... c'était pas hétérogène comme casting, on n'avait pas différents profils, on avait des candidats qui se ressemblaient, qui se connaissaient, qui allaient jouer ensemble, on le savait, et pourtant la production s'est dit que ça va plaire au public, et franchement c'est un plaisir de voir que TF1 met ça le mardi et que ça flop, parce que c'était prévisible, mais ALP a pensé qu'ils étaient malins et qu'ils allaient faire la saison du siècle, mais giga flop.
Ce qui était prévisible par rapport au casting, c'était surtout que ce soit y ait tous les meilleurs amis de Koh-Lanta, de Claude. Il manquait Kunle et on avait tous les meilleurs amis de Claude. Donc voilà. C'est là où c'était prévisible. Ils auraient dû faire une saison au lieu de faire du fan service. Ils auraient dû faire une saison avec les candidats, les candidats marquants. De toute façon, tu pouvais pas passer à côté. Ça reste les 20 ans de Koh-Lanta et les candidats stratèges marquants. Et là, ça aurait pu dynamiter un petit peu le truc. Mais bon. On ne fera pas ça, maintenant on est obligé de subir et on regarde la version PSG de Koh-Lanta, parce que j'ai compris ta comparaison, Jade, qui me fait très mal au cœur. Mais tant qu'on bat le parfum.
Ils sont clairement pas prêts pour un truc stratège versus légende. Enfin, à la Survivor, je pense que dans 20 ans peut-être, mais aujourd'hui pas du tout. Et c'est que cette saison, enfin, il y avait une énorme hype au départ, et c'est une saison qui est hyper bien habillée. Enfin, c'est une saison qui est belle sur le papier, quoi. Déjà, leur com, elle était sublime, les énormes affiches dans le métro et tout ça. Et le premier épisode, enfin, moi, je me souviens, à la fin du premier épisode, on était tous hyper hypés, hyper... en tout cas, pour les gens qui n'étaient pas spoilés. Et en fait, c'est une saison qui est complètement creuse à l'intérieur, quoi. C'est juste... beau paquet cadeau, on a pris tous les gens pour le fanservice, on a fait des belles affiches, on a fait un beau premier épisode pour faire en sorte, pour faire croire qu'il allait avoir du suspense. Et au final, rien du tout, quoi. Ça explose en vol et ça se dégonfle complètement. Et ça va être dur de.
Bah, et puis même, je pense que tous les gens autour de Claude, c'est, on va dire, à quelques exceptions près, il y a quand même beaucoup, beaucoup de gens qui étaient déjà dans la revanche des héros en 2012. Donc c'est ça qui est un petit peu pénible, quoi. Et justement, en parlant de gens qui ont fait la revanche des héros en 2012, on va parler de Kumba. Alors Kumba, donc Kumba qui dit ouais, on peut éliminer Sam, au pire tout ça, hop, elle va voir Claude. Claude dit oh non, hop, tout de suite, non, oui, ok, pardon, on vote Clémence. C'est pareil, c'est ok, c'est ton pote, mais tain, c'est un jeu aussi, quoi. C'est pas grave, quoi. Si tu as le droit aussi de jouer ta carte, c'est ça qui est frustrant, en fait. C'est que ils vont se mettre eux-mêmes en position d'infériorité par rapport à Claude, quoi, pour essayer de le faire avancer. Mais quel est l'intérêt de jouer, du coup?
Bah, attends, jouer Kumba, jouer. Et avancer sans Claude, bah, ce serait pas respecter ce qu'ils se sont dit avant de partir. Voyons. Bah, Damien, non mais tu craques ton slip là. Non mais attends, ils vont pas remettre en cause ce qu'ils se sont dit sur le tarmac ou au terminal de la porte. Je connais pas l'aéroport à Paris, hein, jamais pris l'avion. Hein. Seul avion que j'ai pris, c'était à Beauvais, donc t'as qu'à voir. Mais quand même, il y a un pré-game, faut le respecter, on va pas... Claude a dit non à Sam, Sam est dans notre alliance pré-game, on n'y touche pas, et puis voilà, c'est tout. Qu'est-ce que tu vas me faire chier avec Sam? Non, tu mets Clémence ou tu mets Christelle. Encore que Christelle ne touche pas trop parce qu'il me semble qu'elle est dans le pré-game. C'est tout, Clémence n'est pas dans notre pré-game, donc tu peux la virer, c'est pas grave. Non mais voilà, c'est clairement ça. C'est clairement ça. J'ai rien d'autre à rajouter parce que ça me gaffe.
Tel Léo Messi en 2018, je vais faire une passe décisive à Jade.
Alors,
attends, alors premièrement. Léo Messi, c'est pas le joueur qui jouait chez Jade et qui est chez moi maintenant?
Oh là là. Mais du coup, concernant Kumba, je voulais d'abord commencer mon intervention en rappelant ces deux performances exceptionnelles aux épreuves d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on commence par l'épreuve des radeaux, elle loupe la cible, seule candidate à louper la cible. Encore une fois, Kumba montre qu'elle se démarque de tout le casting, et pour ça, je pense qu'on peut la féliciter. Et lors de la deuxième épreuve, on remarque encore une fois une intelligence de jeu qui dépasse toute logique établie jusque-là en posant 3 kilos dans le sac de Laurent, qui était déjà à deux points de lâcher. Donc voilà, super tactique de la part de Kumba qui a sans doute donné une chance à son équipe de remporter l'épreuve. Et voilà, je pense sincèrement que Kumba a été la joueuse de l'épisode en ce qui concerne les épreuves. Ensuite, si on veut parler du conseil, c'est dans la logique de ce qui se passe depuis le début. Kumba est une hypocrite qui n'assume pas ses décisions, n'assume pas ses paroles et suit comme un toutou Claude et son alliance... et son alliance pré-game. Et je trouve ça totalement pathétique, parce que Kumba avait des options. Et Kumba a quand même décidé de revenir vers son alliance cancer, parce que voilà, je vais dire les termes, c'est clairement une alliance cancer, celle qui lie Claude, Kumba, Phil, Sam, Christelle et je ne sais qui. C'est vraiment scandaleux comme alliance, c'est dégueulasse à voir à l'écran. Et Kumba incarne très bien cette alliance, c'est-à-dire que c'est de l'hypocrisie. On tente de camoufler les choses en faisant des votes blancs, en tentant de trouver des justifications au conseil qui n'ont aucun sens. C'est-à-dire que Kumba, elle va nous dire quoi? Elle va nous dire « Oh Sam, c'est quelqu'un qui peut évoluer, franchement, voilà. » Mais non, non, la seule raison, c'est que tu as voulu voter Sam, Claude a dit non, et toi, comme un toutou, tu as dit « Ok, je vote pas Sam, je vais voter Clémence à la place, parce que sinon, Claude, il est énervé. Si Claude, il est énervé, j'ai pas de goûter. Bon, » Franchement, c'est insupportable et je n'attends qu'une seule chose, c'est de voir Kumba sortir.
Qu'il y ait une alliance pré-game, pourquoi pas? Ça se fait dans tous les All-Stars, dans le Survivor, ça se fait. Enfin, voilà. Mais putain, assumez-le, quoi. C'est ça qu'on demande, c'est juste assumer les choses parce que vous tentez de le camoufler, vous tentez d'essayer de nous raconter une histoire qui n'a ni queue ni tête, dans un montage qui n'a ni queue ni tête. D'une chose, mais qui se voit comme le nez au milieu de la figure de Gérard Depardieu, quoi. Arrêtez de nous prendre pour des cons, parce qu'on n'est pas des cons. C'est... Voilà. On sait que Kumba, Claude, Sam, c'est alors Kumba et Sam, je ne sais pas s'ils se connaissaient d'avant, mais voilà. Tout ça, c'est un noyau hyper mûr qui se connaissent depuis... voilà, Claude et Kumba, oui, Claude et Kumba, ils se connaissent depuis 10 piges. Sam, c'est devenu le toutou de Claude depuis l'île des héros. De l'autre côté, on sait qu'il y a Théoura, il y a Laurent. Putain, arrêtez de nous prendre pour des cons. On le voit, ce pré-game. Donc, assumez-le, montrez-le, et basta. Parce que là, c'est en train de tout niquer.
Non, bah, comme dit Lang et Noshi sur le chat, même s'ils assumaient leur pré-game, je pense qu'on ne le verrait pas à l'écran parce que c'est les 20 ans, c'est la légende. Et voilà quoi, c'est impossible pour ALP d'envisager de briser cette image-là, je pense. Pour eux, c'est trop quoi. Et puis, juste pour revenir sur le personnage de Kumba, je pense qu'au-delà d'être juste une hypocrite et quelqu'un qui suit Claude, ce qui est totalement vrai, et je te rejoins totalement sur ce que tu as dit, Jade, je pense que c'est vraiment. Limite un peu plus pathologique à ce stade, c'est que c'est vraiment le genre de personne qui ont, il y a un gouffre entre ses actions et ce qu'elle fait et l'image qu'elle a d'elle-même en fait. Et elle a une image d'elle qui a des valeurs, qui respecte sa parole et elle nous le martèle à longueur de journée. Sauf que derrière, elle est incapable d'assumer ce qu'elle dit et elle passe son temps à essayer de faire le lien entre ces deux aspects-là de sa personnalité. Et ça devient limite schizophrénique, quoi. À un moment donné, elle ne sait plus donner de la tête avec ça et elle n'arrive pas à assumer, en fait. Elle n'arrive pas à assumer ce qu'elle fait. Et c'est comme si c'était trop pour son cerveau de comprendre que, bah non, des fois, elle ne respecte pas sa parole, que des fois, elle fait des coups dans le dos des autres et tout, qu'elle n'est pas aussi droite qu'elle aimerait bien le faire paraître. Et c'est vraiment le genre de personne qui... ont trop de mal à connecter leurs actions et l'image qu'ils ont d'eux-mêmes. Et c'est insupportable à voir, en fait, parce qu'on voit ce jeu-là entre elle et elle-même, et c'est trop, quoi. Là, c'est vraiment trop.
C'est ça, et elle ne l'assume pas. C'est parce que, voilà, à la limite que le montage n'assume pas. Je nuance un petit peu ma diatribe d'il y a 30 secondes, là. Que le montage ne l'assume pas, OK. Mais Kumba, assume. Assume que tu es, t'as un lien très fort avec Claude et les autres. On va pas t'en vouloir, hein. Assume que tu veuilles faire croire à Clémence que tu vas voter Sam et que dans le dos t'ailles voir les autres. Ouais, j'ai fait croire que j'allais voter Sam alors que clairement c'est la jarreté. On t'en voudrait beaucoup moins que de faire ce cinéma digne de Marion Cotillard dans Dark Knight Rises, quoi. C'est pff, voilà. Faut assumer parce que voilà son image et puis au final elle n'assume pas son image empathie et c'est dommage pour elle aussi quoi. On avait une bonne image de Kumba, bah là ce Koh-Lanta là et son image elle est froissée, elle est déchirée, elle est en mille morceaux et elle a fini dans la broyeuse à papier.
Psychologiquement elle est peut-être pas capable d'assumer et puis même si elle a fait de sa vie, être coach en développement personnel ou je sais pas quoi, elle se dit que pour son image, elle peut pas briser la carapace de valeurs et de paroles qu'elle s'est construite et qu'elle se donne tous les jours. Enfin, et puis après, elle va faire des excuses larmoyantes à Candice sur Instagram et pleurer parce qu'elle veut pas aller au conseil et voilà.
Bah, là, je rejoins là-dessus, c'est le fait peut-être de l'image du coach parce qu'elle déclame beaucoup de choses, elle donne beaucoup de leçons. Mais voilà, à côté de ça, je me dis que moi, un coach qui se contenterait juste de déclamer des trucs comme ça d'un ton un petit peu d'un ton un peu autoritaire et qui montre pas justement sa part d'humanité, de aussi de dire oui voilà je suis beau être coach mais j'ai aussi voilà je suis pas parfaite, je suis humaine et moi aussi parfois il peut m'arriver de me défiler un petit peu, voilà, c'est on assume, ok, voilà, c'est pas grave. Mais là, du coup, moi, je vous rejoins totalement là-dessus sur l'image qu'elle veut donner justement et qui est une image peut-être un peu trop rigide, quoi, justement. Et je crois que Jade, justement, tu voulais abonder un peu dans ce sens.
Alors, encore une fois, je vais attaquer ALP parce que je ne comprends pas pourquoi ALP a décidé de caster une candidate qui en 2005. Quitte le jeu pour parce qu'elle en a marre, elle est fatiguée, elle veut plus jouer et du coup bah comme il y a son alliance qui va déjà en finale, c'est bon, elle peut abandonner. Déjà, pourquoi est-ce que tu ramènes une candidate qui lors de sa première saison a montré un jeu qui ne mérite pas le titre de légende. Lors de sa deuxième saison, bon, on va passer à côté, c'est pas très fou. Et lors de sa troisième saison, elle est impliquée dans un scandale de pacte financier et d'alliance pré-game avec deux candidats qui sont présents dans cette saison. Mais à quel moment ALP s'est dit que c'était une bonne idée? Moi, je veux juste savoir à quel moment ALP s'est dit que mettre Kumba dans la saison, excellent. Encore mieux, je vais la mettre dans une saison avec Patrick et Claude. Et encore plus, je vais la mettre dans une saison, il y a aussi Théoura qui maintenant est pote avec Claude. Donc, pourquoi pas remplacer Bertrand par Théoura? Oh là là, mais c'est incroyable. Et à côté, on est censé s'étonner que Claude, Christelle et Kumba, une alliance pré-game. Parce que je suis désolé, mais il y a deux épisodes, il y avait Christelle qui nous disait « Ah franchement, le speech de Sam m'a fait réfléchir. » Non, le speech de Sam ne t'a pas fait réfléchir. Tu veux juste trouver une excuse pour rejoindre Claude à nouveau. Claude aujourd'hui qui dit « Ouais, j'ai choisi les Christelle. » Bah oui, t'as choisi Christelle parce que t'as un pacte avec. C'est pour ça que tu l'as choisi. Tu l'as pas choisi pour ses valeurs et parce qu'elle est capable de porter 50 kilos à l'épreuve des sacs. Tu l'as choisi parce qu'elle est dans ton pacte. Et là, c'est encore une fois pareil. Au lieu de travailler à trois fils, qui est la bonne décision pour elle, si on occulte le côté pré-game, parce qu'évidemment, on peut rien analyser dans cette saison si on ne passe pas par la case pré-game. Encore une fois, Kumba joue l'hypocrite, fait genre, elle a des valeurs, elle ne peut pas voter contre Clémence alors qu'elle l'a déjà fait. Et ensuite, il suffit d'une conversation avec Claude pour que ses valeurs disparaissent totalement. Donc, je n'arrive pas à comprendre Kumba. Je ne vais pas juger plus que ça parce que, voilà, je pense que on en a déjà trop dit. Mais très déçu de son casting et de ce qu'elle propose sur la saison pour l'instant, c'est clair.
Après, je sais que moi, je me rappelle un peu de sa saison en 2005 où elle était comme ça beaucoup dans le sacrifice. Je sais pas si ceux qui l'ont vu, s'ils s'en rappellent, c'est qu'elle était comme ça beaucoup dans le sacrifice. Elle voulait pas se mettre en avant. Elle était, c'était Alexis, je crois, le voyant qui avait terminé à l'orientation, qui disait qu'elle était excessivement humble et qu'elle voulait pas se mettre en avant. Et autant tu sens à travers ces différentes aventures qu'elle a pris en confiance en elle, qu'elle s'excuse pas d'être présente. Mais du coup, je pense que cet aspect sacrifice, justement, ressort aussi parfois donc avec Claude, c'est-à-dire que elle veut vraiment c'est offrir ça au meilleur et pour elle c'est limite la meilleure chose qui puisse arriver et c'est dommage justement parce qu'on aurait aimé que ce soit que la métamorphose soit complète et que du coup il y ait plus d'esprit de sacrifice, qu'il y ait le couteau entre les dents et que dit ami pas ami c'est un jeu et badaboum. Donc là, du coup, par rapport à ce que tu me disais, ça vient de me revenir. Et du coup, je pense qu'il y a quand même une cohérence vis-à-vis de ça. Si je pense que Kumba, peut-être de sa personnalité, de son éducation, ça peut être énormément de choses. Et quelqu'un aussi qui va beaucoup s'effacer et faire beaucoup pour les autres et s'effacer pour les autres. Et je pense aussi qu'il peut y avoir de ça.
Pour moi, il y a un côté de ça. Ok, je pense que Kumba, dans sa personnalité, a du mal à faire passer sa personne avant celle d'autres personnes, mais je suis désolé, on est dans Koh-Lanta. C'est un jeu où il faut survivre aux autres, ou à la fin, il n'en reste qu'un. Et si elle n'est pas capable à comprendre ça et à jouer, pour moi, elle n'a pas sa place. Par son passé, elle n'a pas sa place, parce qu'elle peut apporter au jeu de ce que tu es en train de me dire, elle n'a pas sa place non plus, parce que, tout simplement, ce genre de personne, pour moi, c'est pas un profil... j'ai envie de dire, qui est compatible avec ce que l'émission doit être. on est censé jouer. Et puis tant pis, sérieux, si quelqu'un se fait éliminer, c'est le jeu. On l'a vu aujourd'hui avec Clémence, elle est sortie, elle leur souhaite quand même bonne chance et tout. C'est tout, c'est le jeu. Tu sors, tu es content de ton aventure, mais quand tu es en jeu, tu fais tout ce que tu veux pour tout ce que tu veux, tout ce que tu peux pour rester en jeu, pour tenter de gagner. Et pour moi, si quelqu'un ne fait pas ça, déjà, ça sabote le jeu. Mais alors, dans cette saison, on en a 15 qui jouent comme ça. Et du coup, bah, c'est très désagréable à suivre. Et Combat en est l'exemple phare.
Mais surtout, cette saison, les seuls qui jouent vraiment, c'est ceux qui sont hors de l'Alliance Pre-Game. Et c'est ceux qui ont quasiment aucune chance de s'en sortir. Surtout qu'ils n'ont pas forcément eu l'occasion de s'allier au début. Donc, c'est hyper frustrant parce qu'on voit des candidats comme Clémentine ou comme éventuellement Clémence qui essaie de jouer et les autres, on dirait que bah, c'est pas que ça les fait chier, mais bon, ils sont là, ils sont tranquilles, ils essayent un peu pour les caméras, mais voilà quoi, c'est pas, ils savent déjà qu'ils vont aller loin, ils se font porter par Claude et puis voilà quoi. C'est hyper frustrant.
Et d'ailleurs, Emma, tu disais que tu t'as dit, il y a quelque chose dans le chat qui est assez intéressant, où tu dis que beaucoup de gens qui font Koh-Lanta feraient mieux d'aller voir des psys. Est-ce que tu peux, est-ce que tu veux expliciter ça?
Ah ouais, mais carrément. Enfin, moi, c'est ça qui me fascine dans cette émission, c'est le côté psychologie des candidats. Pour moi, il y a tellement de gens, ben, comme tu as dit dans le chat, qui manquent beaucoup de confiance en eux et qui vont à Koh-Lanta pour se prouver des choses, pour prouver à leur famille, pour prouver à n'importe qui sur Terre qui sont dignes d'exister et qui ont de la valeur, etc. Et pour se prouver aussi, je pense, à eux-mêmes. Et il y en a beaucoup. Enfin, c'est assez flagrant qu'ils ont des gros soucis à régler avec eux-mêmes et qu'ils préfèrent aller se faire crever de faim et faire des épreuves complètement impossibles sur une île pendant 40 jours, un peu comme des gros bourrins en mode « Ah, je vais me prouver quelque chose, etc. » plutôt que d'aller s'allonger sur le divan d'un psy. Et je pense que il y en a beaucoup qui bénéficieraient un peu de creuser cet aspect-là. Et c'est vrai qu'il y a le manque de confiance en soi, il y a plein de choses comme ça et des choses qui se voient hyper rapidement sur les candidats et des choses souvent qui sont aussi glorifiées comme avoir des valeurs, comme être droit, tenir sa parole, etc. qui sont en fait souvent beaucoup de choses qu'ils essaient de se prouver à eux-mêmes et qui découlent peut-être de petits soucis psychologiques et des fois je trouve ça un peu pathétique au sens premier du terme et assez dommageable parce que je pense qu'ils se font plus de mal que de bien certains en faisant ce genre d'aventure avant d'aller voir un psy donc voilà.
Donc il y a Ikaru qui dit entre Karima, Kumba, Sam, Alix, Maxime, plein de personnalités très fragiles psychologiquement. Et c'est que bah, Karima, on en avait parlé lors de son élimination, c'est que voilà, c'est qu'elle veut approuver, elle veut être un rôle modèle et tout ça, comme elle l'a dit, au niveau social et tout, elle disait que justement elle n'avait pas le droit de se planter et tout. Kumba, bon, il vient de le dire. Sam qui lui révère beaucoup trop l'autorité, ça aussi on l'a dit, et du coup il a ses modèles, il essaie même pas de les dépasser, il veut juste les suivre. On a Alix, mais dont ça bon coup parle, où c'est vrai qu'elle est comme disait Clémentine, qu'elle voilà, elle marche un petit peu le torse bombé, elle a beaucoup de valeur, où tu sens que vraiment il y a ce côté prouver. Et puis bah Maxime, on en a parlé aussi. Maxime qui lui ce qui est un peu le bon élève et quand l'aspect bon élève ne marche pas bah du coup il comprend pas et il y a beaucoup de candidats comme ça qui sont en fait juste des briques parce qu'ils font tout à l'orgueil donc l'orgueil enfin, je fais la différence entre l'orgueil et la confiance en soi c'est-à-dire que l'orgueil t'es dépendant des causes extérieures c'est quelqu'un qui te dit t'es qu'une merde t'arriveras à rien et toi oulala je veux lui prouver qu'il se trompe sauf que c'est épuisant à force parce que t'étais tout le temps en réaction et la vraie confiance en soi qui est intérieure et qui vient je dirais vraiment avec le temps et tu sens que par exemple des gens peut-être comme Laurent comme quoi, peut-être pas Laurent mais des gens comme Claude ou comme enfin pour l'instant Claude c'est le seul que je vois dans ce cas-là qui vont l'avoir et du coup ça donne un jeu bah, Cindy est quelqu'un qui a confiance en elle et ça se voit qu'elle a pas peur elle sait qui elle a pas peur d'être qui elle a pas peur de bousculer l'opinion comme elle l'a dit dans la presse et c'est, je trouve que c'est mieux de peut-être de dire aux gens que, en fait, l'orgueil fait de vous des briques, en gros, alors que Koh-Lanta est un jeu social, c'est un jeu où justement il faut être fluide et léger. Et ça, justement, c'est l'aspect psychologique est justement très très intéressant. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup beaucoup de candidats dont on voit les faiblesses qui sont béants.
Moi, je suis d'accord avec une bonne partie de ce que vous dites. Après, concernant Alix, je trouve que même si on a un peu ce côté défensif que, comme dans sa première saison, je la sens beaucoup plus libérée. Elle n'hésite pas à jouer. Elle n'a pas peur de mentionner le nom d'un candidat populaire. Et pour moi, il faut avoir de la personnalité pour faire ça, parce que visiblement, dans cette saison, c'est très compliqué de le faire. Et pour le coup, oui, c'est clair que dans Koh-Lanta, les candidats qui ne se soucient pas de l'image des gens et qui justement ont assez confiance en eux pour justement ne pas calculer ce genre de choses sont rares. Et je trouve ça dommage, mais bon, de toute façon, il faut un peu de tout dans Koh-Lanta. Ce n'est pas le souci numéro un. Le souci, je pense que c'est plus les alliances pré-game, le côté ne pas assumer plutôt que le côté psychologique, que je trouve toujours intéressant à regarder. C'est rarement frustrant en fait de s'intéresser à la psychologie des candidats, mais c'est toujours frustrant de voir que y a des lignes qui ne peuvent pas bouger parce que justement tout a été décidé à l'avance.
Après, pour revenir sur Alix, c'est vrai que par rapport à sa première saison, elle s'est peut-être un peu améliorée, mais elle est quand même beaucoup en réaction. Comme tu disais, Damien, où un épisode, elle est prête à tout pour rejoindre l'alliance des mecs, et l'autre épisode, elle est là, ouais, finit de faire marcher dessus, on retourne tout, machin, et elle est toujours... Enfin, elle est prête à aller dans des extrêmes vachement en réaction à ce qui se passe, quoi. Elle est un peu girouette dans ce sens-là, un peu comme Alexandra, même si c'est deux personnalités très, très différentes. Mais je nuancerai un peu par rapport à Alix, quoi.
Alors, du coup, par rapport donc à la stratégie, bon, on s'en doutait, c'est Clémence qui part. Clémence, pareil, vous, enfin, c'est une des rares qui a essayé de jouer, qui a essayé de s'en sortir, et je trouve qu'elle sort avec un certain panache.
Oui, bah voilà, elle n'était pas dans la bonne alliance. Elle n'était pas dans le pré-game. Voilà.
Bah,
encore et toujours.
Je trouve qu'il n'y a pas grand-chose à dire sur Clémence. Elle était dans une situation impossible à régler à part si avec Collier. Et sa sortie est respectable. Elle n'attaque personne. Elle sort fièrement. Je pense qu'elle peut être fière de son jeu. C'est une sortie propre. Et puis voilà, il n'y a pas grand-chose à dire sur Clémence. Je pense que... Voilà, elle est irréprochable sur cet épisode en quelque sorte parce qu'elle peut rien faire. On peut pas dire qu'elle aurait pu faire quelque chose ou tenter quelque chose ou quoi que ce soit parce qu'on sait que c'est impossible. Et pour le coup, voilà, on lui souhaite bonne chance pour le duel lors du prochain épisode. Même si personnellement, je préfère voir Hugo et Clémentine revenir. Si c'est Clémence qui revient, je n'ai aucun souci et puis on verra ce qu'elle pourra faire dans le jeu par la suite.
Après, elle essaie quand même un peu de jouer. Enfin, c'est la petite partie de stratégie qu'on voit au bout d'une heure et demie d'épisodes hyper chiants sur la survie, où elle essaie de donner des signaux à l'autre équipe, comme quoi elle a eu des voix contre elle a eu le collier, mais voilà. Enfin, elle essaie de planter des graines. Malheureusement, c'était un peu trop tard. Enfin, disons que à un épisode près, elle aurait peut-être pu se sauver par rapport à la réunification. Après, ouais, Clémence, je suis hyper d'accord qu'elle soit sortie. Pareil, c'était une de mes candidates un peu favorites, pas forcément parce qu'elle joue très bien ou quoi. Enfin, elle a des bonnes réflexions strat, mais voilà, mais c'est juste que elle est quand même assez emblématique et ça aurait été hyper intéressant de la voir vers une troisième victoire. Mais comme tu dis, Jade, je pense que je préférais quand même Clémentine et Hugo en retour. Enfin, je pense que Hugo, c'est quasiment acté qu'il revient vu son montage. Et donc, ça se jouera peut-être un peu plus entre Clémence et Clémentine. Et j'aurais aussi une petite préférence pour Clémentine parce que je pense qu'elle est plus à même de retourner un peu le jeu. Même si, à mon avis, elle a pas forcément les bonnes personnes dans le viseur, sachant que Adix et Alexandra... elles n'ont pas trop de pouvoir sur le jeu, alors que si elle avait dans le viseur des plus gros noms comme Laurent ou comme Claude, là, ça pourrait encore plus être du sel, quoi. Mais bon, encore une fois, peut-être qu'ils ne sont pas tous prêts à ça.
Alors, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter sur cet épisode? Parce que là, on a tenu trois quarts d'heure. Bon, on fait des épisodes d'une heure d'habitude, mais là, c'est vrai que du coup, il y avait quand même peu à dire, même si des réflexions très intéressantes à la fin. Et puis la réunification la semaine prochaine, ça va peut-être bouger un peu.
T'y crois, toi?
Voilà, tu sens le désespoir dans mon ton de voix. Bah,
moi, je voulais juste ajouter un truc.
Vas-y.
C'est que Loïc, même quand les gens ne mangent pas, il a toujours le sourire. Voilà, et il est très fort, Loïc. Je pense qu'on l'oublie trop. Il ne parle pas, mais il agit. Et il ne faut pas sous-estimer Loïc. Voilà.
On y croit pas. Ouais, sans être. Mais c'est vrai qu'il est très absent du montage, c'est-à-dire qu'on. Mais tu sais, je sais que c'est pour la déconne, tu dis, on le voit même pas forcément beaucoup agir.
Bah non, on l'a vu tenir la corde.
Mmh.
Voilà. Par rapport à ce que tu as dit, si on voulait revenir sur un moment de l'épisode, quand même saluer, parce que mine de rien, Koh-Lanta c'est aussi un peu des épreuves, la performance d'Alexandra et de Christelle. Parce que mine de rien, c'était beau ce qu'elles ont fait. Elles ont montré qu'il n'y avait pas besoin d'être des musclix pour performer sur des épreuves physiques.
Bien d'accord là-dessus. Et je vais rajouter mon petit grain de sel féministe sur l'épisode, mais ça m'a un peu saoulé Denis là, qui glorifie Namadia, qui a dit 10 fois Namadia elle est au bout de lui-même, machin et tout. Enfin, en faire tout un plat alors qu'il a fait un petit malaise, ce qui est totalement normal. Et d'ailleurs, ça m'étonne qu'il n'y en ait pas plus qui ait fait des malaises, parce qu'à faire ça sous 45 degrés en n'ayant rien mangé depuis 3 jours, enfin. C'est quand même un petit peu fou. Mais si ça avait été n'importe quelle fille qui s'était effondrée comme ça, franchement, ça aurait été une faible, machin. Elle aurait été forcément la cible de vote potentiellement au conseil d'après. Et on le voit bien avec Claude qui... Bon, après, il y a aussi le pré-game, mais qui engueule Christelle dès qu'elle lâche parce qu'elle aurait pu tenir quand même 30 secondes de plus, machin. Et alors qu'il pardonne Sam parce que ça arrive à tout le monde de se rater sur une épreuve. Et vraiment, moi, ce double standard, je le dis depuis le début, mais ça commence vraiment à me gonfler, quoi.
Bah écoute, moi, l'épisode, je peux te dire que c'est un de mes épisodes préférés, absolument pas. J'ai bien aimé enregistrer le podcast parce qu'on a pu lâcher, du sel, mais l'épisode en question a été assez naze. Je pense que la grande majorité du public sera d'accord. Enfin, la grande majorité des auditeurs, parce que je pense que le public s'en fiche un peu, ils vont plus se concentrer sur « Oh là là, Loïc a porté 69 kilos à l'épreuve, et le radeau était incroyable, waouh !» Mais voilà, donc franchement, si on oublie la performance sportive, l'épisode était absolument catastrophique, et c'est de plus en plus commun dans Koh-Lanta, dans chaque saison on a ça. J'espère que la production va se rendre compte qu'il y a un souci, mais je ne crois pas. Donc je pense qu'on va, on va avoir des épisodes du genre encore très souvent, que ce soit cette saison ou dans les saisons futures, malheureusement. Et on ne peut qu'espérer que ce soit des anomalies et pas des habitudes comme c'est en train de devenir.
J'ai peur que tu ne parles à un mur, Jade.
Bah écoutez, merci à vous en tout cas d'avoir débriefé un peu cet épisode et d'avoir même amené de la substance là où il n'y en avait pas. C'est là que je vois que vous êtes vraiment une team de champions. Et je le dis. Voilà.
Non.
Je suis fier de vous.
Ah, mais merci. Merci, maître.
Merci, chef.
Merci.
Est-ce que tu votes avec Claude?
Non, ben voilà, bah, du coup, merci Emma.
Bah, merci à toi, Damien. Et merci à vous. C'était très agréable comme enregistrement.
Merci Jade.
Écoute, merci à toi. C'était cool.
Jade Larache. C'est pas mal, ça te va bien.
Et Clémentine, c'est un peu ma version à moi sur l'île. C'est-à-dire que niveau rage, niveau imitation de candidat, elle fait assez fort et ça me ressemble beaucoup. Donc c'est aussi une raison pour laquelle j'apprécie beaucoup son personnage.
Écoute, voilà, je te dis, donc tu préfères Clémentine au personnage qui porte ton nom avec une lettre en plus.
Ah oui pour le coup, mais voilà, on peut dire que Jade avec un E est aussi une bonne candidate, même si sur les derniers épisodes elle est pas trop présente.
Ah bah merci beaucoup SLZ de l'Amazon aux yeux de braise.
Ah oui, et ben merci à toi Damien, merci à Jade et à Emma. Petit rappel, Twitter ADF Podcast, Instagram Autour du Feu. Puis notre Discord qui est sur notre présentation Twitter. Donc voilà.
Non.
Et le Facebook qui n'existe pas. Si vous tapez Autour du Feu sur Facebook, vous tomberez sur des vendeurs de cheminées.
Oui, on a regardé. Voilà. Et puis n'oubliez pas le live à la Gaîté Lyrique le 17 avec Shanice à 17h45 le dimanche lors du Paris Podcast Festival. On vous y attend. Et puis, bah, y aura Arnaud, il y aura Freeze, et puis il y aura Emma et Shanice, du coup. C'était Damien, puis je vous dis à la semaine prochaine. Merci de suivre cette saison avec nous. Bien du courage, nous, on vous lâchera pas. Donc, ne lâchez pas. Salut à tous.